Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Noël est à nos portes, mes bien chers frères. Noël arrive et la Sainte Église se demande si nous nous préparons suffisamment et si nous serons enfin prêts à recevoir notre Sauveur dans la nuit du 24 au 25 décembre. Elle a mis pour cela sous nos yeux l'attente des patriarches et des prophètes. Elle nous a fait entendre dimanche après dimanche les appels du grand précurseur, Jean le Baptiste. Elle a placé au seuil de l'Avent la grande fête de l'Immaculée pour que nous puissions appeler avec la Vierge Marie elle-même la venue du Rédempteur. Mais alors que la fête approche, l'Église prend un nouveau moyen pour exciter nos désirs et animer notre ferveur. Ce sont les fameuses antiennes eaux, ces sept antiennes très solennelles qui sont chantées tous les soirs à Vêpres au moment du Magnificat du 17 au 23 décembre. Et même si vous n'assistez pas à Vêpres, l'Église vous recommande fortement de lire tout seul ou en famille, ou même si possible de chanter ces sept antiennes. Cette antienne qui offre en quelques lignes un résumé très fort et très vivement coloré des différentes prophéties. Prenons juste pour exemple l'antienne de ce soir, 20 décembre, qui appelle le Messie en ces termes. Ô clavis David, ô clé de David, et sceptrum domus Israël, et sceptre de la maison d'Israël. Quia peris et nemo claudis, claudis et nemo aperit. Qui ouvrait de façon à ce que personne ne puisse fermer, et qui fermait de façon à ce que personne ne puisse ouvrir. Veni et educ vinctum de domo carceris. Venez tirer de sa prison le captif. Sedantem in tenebris et umbra mortis, qui gît dans les ténèbres, à l'ombre de la mort. Plusieurs formules du prophète Isaïe et aussi de l'Apocalypse sont reprises dans cet appel, et on peut facilement y discerner trois idées principales. D'abord, premièrement, le Messie est attendu comme roi, un roi détenant le pouvoir suprême et une autorité absolue. Ensuite, ce n'est pas n'importe quel roi, mais le descendant de David, celui qui a été promis à Israël. Enfin, ce roi vient en libérateur, pour nous libérer non seulement de la prison, des domo carceris, mais aussi de nos liens, de nos langueurs, de nos ténèbres et de la mort. Voyons tout cela en détail. D'abord, le pouvoir royal est exprimé par deux images, l'image du sceptre et l'image de la clé. Pour le sceptre, ça ne nous pose aucune difficulté, puisque chez nous aussi, en Occident, nous sommes habitués à ce que le roi soit représenté avec un sceptre. Pour la clé, il faut savoir qu'en Orient, c'était traditionnellement un symbole de l'autorité, ce qui se comprend très facilement, normalement, qui a la clé d'une maison, le maître de maison. Et de même, pour une ville, les magistrats, les autorités civiles, possédaient la clé de la ville. Et une cérémonie de tradition des clés avait lieu lorsque une nouvelle autorité était investie du pouvoir. Donc, la clé est le symbole de l'autorité. Pour manifester que cette autorité est l'autorité suprême, il est précisé que c'est une clé qui ouvre de façon à ce que personne ne puisse fermer et qui ferme de façon à ce que personne ne puisse ouvrir. Autrement dit, personne ne peut revenir sur ce que cette autorité a décidé. Elle n'a personne au-dessus. Notre Seigneur est roi, cela implique qu'il vient sur cette terre pour établir un royaume. Et si on ouvre l'Évangile, on s'aperçoit vite que ce terme de royaume, le royaume des cieux ou bien le royaume de Dieu, est un des mots qui revient le plus souvent dans la bouche de notre Seigneur. Seulement, c'est un royaume très particulier, un royaume spécial, puisque ces paraboles nous montrent qu'il a deux étapes distinctes. Le royaume des cieux a déjà une étape terrestre, il commence sur cette terre, et ensuite il a une étape finale, une étape céleste, une étape éternelle, qui est bien sûr le but. Mais Jésus-Christ, notre Sauveur, est venu instaurer, fonder son royaume déjà sur cette terre. Et évidemment, ce royaume commencé sur cette terre, c'est la Sainte Église. Et il faut entrer dans le royaume, dans cette étape terrestre, pour pouvoir en faire partie ensuite dans l'éternité. Notons au passage que notre Seigneur lui-même emploiera la même image, l'image des clés, lorsqu'il instituera Saint-Pierre à la tête de la portion terrestre de son royaume. Il lui dira, tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et pour montrer que cette autorité sera l'autorité suprême ici-bas, il ajoute, ce que tu liras sur cette terre sera lié dans les cieux, et ce que tu déliras sera délié dans les cieux. Ce qui est encore une façon de dire, ce que tu feras, ce que tu décideras sera définitif, on ne pourra pas revenir dessus. On voit ici donc que Saint-Pierre, par cette parole, n'est pas comme des images populaires pourraient nous le faire croire, n'est pas institué en tant que portier du paradis, c'est pas ça que veut dire la formule « je te donnerai les clés du royaume des cieux », il est institué sur cette terre à la tête de l'étape terrestre du royaume, c'est-à-dire à la tête de l'Église. Notre Seigneur vient donc comme roi, mais deuxièmement, ce n'est pas n'importe quel roi et ce n'est pas un aventurier venu d'on ne sait où qui se présenterait comme ça sans pouvoir indiquer aucune origine sûre. Non seulement il vient de Dieu et il est Dieu lui-même, mais même au point de vue temporel, au point de vue terrestre, notre Seigneur veut manifester une légitimité. Il est le descendant d'une dynastie princière, il est le fils de David, l'héritier d'une lignée prestigieuse. Et c'était là un des aspects annoncés par les prophètes. Le Messie venait pour être roi d'Israël, il devait être descendant de David. Notez bien qu'on trouve dans les prophéties deux séries de prophéties distinctes. Les unes insistent sur le fait que Jésus vient pour être le roi d'Israël, le Messie d'Israël. Et d'un autre côté, d'autres prophéties, parfois pas au même endroit, insistent sur le fait qu'il vient pour toutes les nations et que son règne sera universel. Et si vous regardez le prophète Isaïe ou les autres prophètes, on trouve les deux prophéties. Et on peut se demander, mais pourquoi cette distinction? Eh bien, on s'aperçoit, quand on regarde la vie de notre Seigneur, qu'il y a, pour ainsi dire, une double mission de notre Seigneur. La mission principale est universelle, c'est-à-dire notre Seigneur vient comme sauveur de tous les hommes. Il vient sur la croix s'offrir en sacrifice pour tous. Il vient fonder une église qui est universelle. Et il envoie ses apôtres en leur disant « Allez enseigner toutes les nations ». Mais, à côté, notre Seigneur a aussi une mission de prédication qui, elle, est limitée à son peuple, limitée aux Juifs. Il y a deux temps bien distincts. Le premier temps qui est le temps de notre Seigneur où l'Évangile doit être donné aux Juifs et ensuite un deuxième temps dans lequel les apôtres doivent le porter au monde entier. On voit notre Seigneur le dire, je suis venu d'abord pour les enfants d'Israël. Et on peut se demander pourquoi notre Seigneur fait-il cette distinction? Pourquoi est-il venu prêcher lui-même uniquement à son peuple? Pourquoi est-il ainsi le roi d'Israël, le fils de David, tout en étant aussi, sous un autre plan, le roi de tous les peuples, comme le dira l'antienne du 22 décembre, « O rex gentium », ce qui veut dire « au roi des gentils », roi de ceux qui ne sont pas juifs. Mais pourquoi cette distinction ? Ben pour montrer que la grâce ne détruit pas la nature. Notre Seigneur vient instituer un royaume surnaturel, il vient guérir et élever la nature, mais sans la nier ou la supprimer. Le christianisme n'est pas une idéologie qui veut nier le réel ou en détruire certains aspects. Ce n'est pas non plus une utopie. Ça n'est pas comme le mondialisme aujourd'hui qui voudrait gommer la nature humaine et toutes ses spécificités pour instaurer un monde nouveau qu'on nous promet merveilleux, mais dont on ne voit que les destructions qu'il opère sans jamais voir ce qu'il peut apporter de bon. Non, le christianisme respecte les conditions de notre nature humaine. La famille, la tribu, la nation. Bien sûr, il nous appelle à élever nos regards plus haut, à ne pas y rester enfermés, à ne pas faire comme un certain nombre de juifs qui regardaient le messianisme uniquement comme le salut de leur peuple, mais il assume cette réalité de notre nature humaine qui est que nous ne pouvons pas nous occuper de tout le monde à la fois, nous avons un prochain et qu'il est normal que nous nous occupions d'abord de notre famille et des gens qui sont proches de nous. Même notre Seigneur a fait ainsi. Donc notre Seigneur vient comme roi, il vient comme roi légitime, fils de David, roi d'Israël, et il vient nous délivrer. Et ici, on a dans cette antienne une description très réaliste de notre état. Non seulement nous sommes en prison, indomo carceris, mais l'homme est lié, il est enchaîné, vinctum, et il semble incapable de se mettre debout. Sedentem, il est assis, il gît sans pouvoir se lever. Il est dans les ténèbres, dans l'obscurité et enfin à l'ombre de la mort, c'est-à-dire sans cesse menacé par la mort. Et si on regarde l'Évangile, on s'aperçoit que notre Seigneur, qui est venu d'abord guérir nos âmes, bien sûr, mais même quant au corps, a voulu manifester toutes ces sortes de délivrances. Il a voulu délivrer des possédés du démon. Il a voulu délivrer des morts, des personnes qui étaient défuntes, il les a délivrées de la mort. Il a voulu délivrer de la cécité des aveugles. Il a voulu délivrer de la paralysie. Et lui-même a voulu se libérer du tombeau. Bien sûr, le plus important, c'est ce qu'il apporte aux âmes. Mais c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire notre Seigneur vient nous libérer de la mort éternelle, le péché, sa conséquence, l'enfer. Il vient aussi nous libérer de nos faiblesses, notre paralysie. Il vient nous libérer de notre aveuglement. Il vient nous libérer des liens, c'est-à-dire toutes ces attaches à la terre, à tel ou tel bien auquel nous sommes trop attachés ici-bas et qui nous empêchent de nous mouvoir comme il faut vers le ciel. Que faire, donc, pendant ces quelques jours qui nous séparent encore de la fête de Noël ? Eh bien, mettons-nous dans ces dispositions que nous recommande la Sainte Église. Répétons ces antiennes hauts, jour après jour, et notamment celles d'aujourd'hui, et acclamons notre Seigneur comme notre roi, mais surtout, demandons-lui de venir, comme il nous le promet, nous délivrer. Certainement, nous avons encore des liens dont nous devons être délivrés. Nous avons encore des aveuglements sur tel ou tel point où nous ne voyons pas les choses comme le bon Dieu les voit. Nous avons des faiblesses et de tout cela, notre Seigneur nous délivrera si vraiment nous l'invoquons avec foi et avec espérance. Nous pouvons en particulier lui demander d'être délivrés de l'esprit du monde. On a entendu aussi bien ce dimanche que le dimanche passé, Saint Jean-Baptiste reprendre la phrase d'Isaïe en disant « Je suis la voix qui crie dans le désert ». Et on peut se demander, mais pourquoi s'il veut prêcher, pourquoi va-t-il prêcher dans le désert ? Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux qu'il aille au cœur d'une grande ville ? Est-ce qu'il ne serait pas davantage entendu ? Quelle est cette drôle d'idée d'aller prêcher dans le désert ? Pourquoi cette voix qui crie dans le désert ? Eh bien, tout simplement, la Sainte Écriture veut nous faire comprendre que pour entendre la parole de Dieu, il faut, d'une certaine manière, aller dans le désert. C'est-à-dire, il faut se séparer, dans une certaine mesure, du monde. Et seulement là, nous pourrons entendre ce que Dieu a à nous dire. Les gens devaient quitter la ville, se rendre au désert, et ils le faisaient d'ailleurs, pour aller écouter Saint Jean-Baptiste, parce que là, ils s'étaient mis dans les conditions pour l'entendre. Donc, c'est une des choses dont nous pouvons demander à notre Seigneur de nous délivrer, certainement, cet esprit du monde, cet attachement au monde. Que Notre-Dame nous aide à persévérer dans cette attente du Messie et à bien recevoir toutes les grâces qu'il veut nous donner. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.